EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette émission. Notre thème du jour est « Reste humble dans la gloire ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique Actu dans laquelle Anne va nous parler des racines du pentecôtisme moderne. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Ça va bien?
Bien, merci.
Froidement.
Pardon?
Froidement.
Froidement, eh oui, le froid du Québec est toujours parmi nous. J'espère que chez vous, il fait plus chaud. On a des gens qui nous écoutent de partout dans le monde. Il y en a, ils ont super chaud, ils ont même trop chaud.
On a des amis en Polynésie française.
Exactement.
Bonjour les amis.
Maréva Hubert.
Maréva, bonjour.
Exactement. Eux, je pense qu'ils n'ont pas froid. Hein.
Non.
Ah bon. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler d'humilité, un thème important. Oui. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, c'est la puissance de l'humilité.
Eh oui, Evelyne, parce que l'humilité, c'est puissant. Et on va aller lire ensemble, en commençant le Proverbe 15, verset 33. La parole nous dit... La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et le mot gloire ici, c'est en fait le mot hébreu kabod, qui signifie richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, toutes ces choses. Et puis, lorsqu'on regarde à Jésus, le parfait modèle, on doit toujours regarder à lui, évidemment. On regarde la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a quitté son ciel de gloire et il est venu ici sur terre naître dans une mangeoire. C'est la première des choses, pour moi en tout cas, que ça me montre, c'est l'humilité. C'est énorme lorsque tu penses à qui est Jésus. Je veux dire, sa personne, il est Dieu, et il décide de venir ici, et la première chose qu'il demande, c'est l'humilité. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, une grande leçon à apprendre. Et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est lorsqu'on est quelqu'un de humble, et qu'on grandit dans l'humilité, parce que dans l'humilité, ben c'est ça, c'est progressif. Je veux même dire que l'orgueil... Dieu va nous révéler parfois des endroits dans nos vies où ce qu'on a de l'orgueil, qu'on était ignorant que c'était là avant, en fait même. Et puis, on va progressivement grandir dans l'humilité. Et lorsqu'on grandit dans l'humilité, toutes ces choses-là, le fait d'être connu, d'être aimé des hommes, toutes ces affaires-là, on recherche pas ça. En fait, ce qui va arriver, c'est que notre influence va grandir, Dieu va nous élever, comme on va le voir dans un passage qu'on va lire ensemble. Mais avant, on va lire Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 9. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et en fait, lorsqu'on lit ce passage, on se rend compte à quel point l'humilité va être un tremplin pour nous dans nos vies, même dans nos destinées, dans ce que Dieu veut qu'on accomplisse. De plus en plus qu'on va marcher dans l'humilité, de plus en plus on va avancer dans des choses qui vont être de plus en plus grandes. Et ça, c'est absolument glorieux. Et il y a beaucoup de gens qui veulent avancer dans leur vie, mais qui veulent pas prendre le temps de commencer là où Dieu leur demande de commencer parce qu'à leurs yeux, c'est trop petit. À leurs yeux, je suis pas devant les hommes. À leurs yeux, c'est... toutes sortes de raisons, toutes sortes de raisons pour lesquelles il voudrait pas commencer là. Dieu nous demande de commencer à quelque part et il veut regarder notre cœur, l'humilité qui est là. Est-ce qu'on va être capable de persévérer dans ce qu'il nous demande, même si c'est pas reconnu par les hommes? On a fait des émissions sur la reconnaissance, sur toutes sortes de choses ici à Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, on parle de l'humilité parce que c'est tellement important. La parole nous dit dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et on voit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est tellement important de comprendre ces versets-là, et il y a une importance qui est énorme reliée à l'humilité. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, les gens qui ont été utilisés c'est des gens qui étaient humbles. Lorsque vous regardez autour de vous les personnes qui sont puissamment utilisées par Dieu et qui avancent vraiment de gloire en gloire, ce sont des gens qui sont humbles. Il faut vraiment prendre ça à cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des clés, toutes sortes de clés pour réussir et avancer. Mais je vous le dis, la simplicité d'être humble, de chercher à se rapprocher de Jésus. De plus en plus qu'on va être avec lui, de plus en plus on va se dire « Wow, c'est tellement une grâce. Tout ce que j'ai, c'est une grâce. Ça vient de toi, Dieu. Je te remercie. » Et ça garde vraiment notre cœur dans l'humilité. C'est tellement important. Mmh. Et quand on regarde à Jésus, pour ma part en tout cas, les fois que ça peut arriver où est-ce que tu te dis « Ah, je dois faire ça, moi », ou peu importe la raison ou la situation, moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est « Je pense à Jésus ». Lorsqu'on lit ensemble dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je me dis, c'est énorme, Jésus, comment il était, comment il marchait, l'humilité qui était là lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Les disciples, ils devaient se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais pourquoi est-ce que lui, il fait ça? C'est pas lui qui doit faire ça, c'est nous qui devons lui laver ses pieds. Tu regardes à son cœur et qui il était. Moi, ça me touche, ça me travaille à tous les fois je pense à ça. Et comme j'ai dit, des fois, si on a de la difficulté avec quoi que ce soit, on a juste à se rappeler de Jésus. On dit, Jésus, t'as lavé les pieds de tes disciples, c'est sûr que je peux faire ça. Il y a rien que je peux me croire trop grand pour faire lorsque je regarde à toi. Et c'est énorme. Donc, si dans votre vie, vous voulez avancer, aller à un autre niveau, ben soyez humble. Vraiment, demandez à Dieu, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout simplement, mais Dieu, est-ce que j'ai de l'orgueil qui est là? Je veux pas, comme la parole me dit, je veux pas que tu me résistes, je veux avancer, et je veux vraiment avancer dans l'humilité. Père, révèle-moi s'il y a des endroits dans ma vie où est-ce que je dois travailler sur l'orgueil qui pourrait être là, parce que je veux grandir dans l'humilité. Lorsqu'on le fait en toute sincérité, comme j'ai dit au tout début de la pensée, Dieu va nous révéler des choses parfois qu'on savait même pas que c'était là, et on va pouvoir dire non, là maintenant, ça j'en veux plus dans ma vie, je veux plus marcher dans l'orgueil vis-à-vis de ça, je veux pas avoir une attitude hautain, je veux pas ci ou ça, et on va vraiment pouvoir avancer de gloire en gloire, et Dieu va pouvoir nous utiliser de plus en plus puissamment, et lorsque ça va arriver, lorsqu'on va être utilisé par Dieu, c'est ça qui est spécial, c'est quand on est humble. Comme je l'ai dit, on ne recherche pas à avoir la gloire ou on ne recherche pas toutes ces choses-là et Dieu le sait. Dieu, sa gloire est pour lui. Et c'est glorieux de pouvoir marcher dans l'humilité. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, l'humilité, c'est puissant et avançons tous dans l'humilité.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup, Frank. Et c'est vrai que quand on marche avec le Seigneur, on a à peu près une certitude, c'est qu'on va avoir du succès dans ce qu'on va accomplir quand on marche avec Dieu. Le problème, c'est de demeurer dans le succès, dans la réussite pour Dieu. Et c'est là le défi. Et c'est ça, c'est ce dont tu as parlé. Cette humilité est essentielle dans notre marche avec le Seigneur. Et d'autant plus quand on a du succès. Un jour, le pasteur Dorothée, qui était venu ici dans nos studios, m'avait dit « Yveline, vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire.
Ouais. »
Et ça m'est vraiment resté cette phrase-là et je veux toujours m'en souvenir. Mmh. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand on essaye de faire les choses par nous-mêmes, il ne s'agit pas seulement d'être quelqu'un de très orgueilleux et puis de se mettre en avant, mais même quand on veut faire les choses par nous-mêmes, déjà là, on prend la gloire à Dieu, en fait. Et c'est ce qui se passe souvent quand les gens commencent à avoir du succès. Ils vont commencer à compter sur leur propre force, leur propre capacité, pas forcément consciemment, en fait. Je ne parle pas forcément ici vraiment d'un orgueil volontaire. C'est souvent un orgueil involontaire qui contamine les chrétiens. Et là, à ce moment-là, la gloire de Dieu va se retirer parce que Dieu ne partage pas sa gloire.
Ouais, pendant que Frank parlait, ça me faisait penser à Joel Osteen. Vous connaissez le pasteur de la plus grande église aux USA.
Mm-hmm.
Son père avait une église, John Osteen, je crois, de 8000 membres. Et lui, en fait, il était caméraman.
Mm-hmm.
Il avait tout un potentiel en lui, qu'il connaissait certainement. Il avait une grâce sur lui. Mais malgré tout, il servait dans l'humilité derrière les caméras. Il était caméraman, le fils du pasteur, pendant des années. Et Dieu l'a vu et Dieu l'a promu. Il a pris la succession de son père et il a amené l'église à une forte croissance.
Mm-hmm.
Et j'ai appris, c'est toi qui me l'as appris, Frank, Daniel Colanda, il était en train de faire le ménage dans les bureaux de ses fans, dans le hall d'entrée, je ne sais pas où.
C'est fan de Christ pour toutes les nations.
Christ, donc le ministère de Reinhard Bonnke, et tu m'expliquais que quand Bonnke est descendu, là, le Saint-Esprit a arrêté Bonnke, il a posé ses yeux sur Daniel Colanda, Et là, le Saint-Esprit lui a parlé et il a pris Daniel Colanda comme son successeur. Et qu'est-ce qu'il faisait?
Il passait le balai. Une anecdote, Frank.
Et là,
j'avais oublié.
Il pourra la raconter. Mais en fait, ce qui est formidable de voir, c'est que comme Moïse était l'homme le plus humble et tout ça, et Dieu a posé ses regards sur Moïse. Et dans Acte 13, je pensais à David, où Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Et Dieu continue, il dit, pourquoi c'est un homme selon mon cœur? C'est parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Et on met souvent l'accent sur le potentiel, etc. Mais ce qui attire Dieu, c'est pas nos capacités, nos talents. Ce qui attire le regard de Dieu, c'est cette clé, c'est l'humilité d'un cœur. Parce que Dieu savait que David n'allait pas chercher, parce qu'il n'était pas orgueilleux, mais qu'il était humble, à faire son propre empire, à faire les propres choses pour lui-même, mais qu'il savait qu'il allait chercher à obéir à Dieu parce qu'il avait un cœur humble. Il ne voulait pas qu'on le serve, il voulait servir.
C'est ça.
Donc c'est l'humilité qui attire ce regard de Dieu, c'est tellement important.
Exactement. Le danger, c'est que souvent, quand on commence à porter du fruit, en fait, à voir Dieu se manifester au travers de nous, on oublie qui est la source de ce fruit. Et puis, on pense que c'est nous, parce qu'on a prié de telle façon, parce qu'on a peut-être jeûné avant, parce qu'on a fait ci ou ça, ou qu'on a invité telle ou telle personne. Et ça va très, très vite. C'est ce que je dis, c'est pas un orgueil conscient et volontaire, c'est que ça va très vite. Et tout à coup, on va croire que ça vient de nous. Et là, à ce moment-là, c'est ça. C'est que la gloire de Dieu, malheureusement, se retire dans ces moments-là. Et c'est dommage parce que ça met fin à quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. L'humilité est un élément indispensable pour pouvoir être utilisé par Dieu.
On doit garder notre cœur. Ouais. On doit faire attention, on doit être vigilant. On doit rester au pied de Jésus et le reconnaître. On voit dans la Bible plusieurs personnes qui, au bout d'un moment, quand ils sont entrés dans la gloire, le roi Ozias, par exemple, la Bible dit que quand son royaume fut affermi, il avait vraiment bien construit les choses, bien dirigé, etc. Son cœur fut enhardi d'orgueil, rempli d'orgueil. Ça a été la même chose pour Saül. Saül, au bout d'un moment, quand il était vraiment au plein pouvoir, son cœur s'est enorgueilli. Aaron et Myriam aussi, de la même façon, au bout d'un moment, Moïse était pour eux, c'était familier. Bon, Aaron, c'était son frère. Il y a une familiarité qui s'est installée. Ils commençaient à peut-être aussi recevoir des choses de la part de Dieu. Et au bout d'un moment, ils se sont enorgueillis. Il faut faire attention, il faut être vigilant. Et une chose qui va nous garder, je crois que c'est l'amour. L'amour va empêcher de se sentir supérieur aux autres et de commencer à critiquer. Parce que souvent, quand on parle d'humilité, en opposition à l'orgueil, l'orgueil, c'est beaucoup de critiques. C'est beaucoup de « je pense que j'ai raison ».
Le jugement, oui.
Ils ont tort, ils font ceci, ils font cela. Mmh. Et souvent, on est tellement dans ce monde emporté ou même poussé à critiquer les autres, à critiquer les ministères, etc. Une chose qui empêche le réveil, on va parler du réveil tout à l'heure, mais c'est l'orgueil et la critique dans les églises. La critique dans les églises, Dieu a amené beaucoup de mouvements de réveil où il y avait des choses extraordinaires. Et Charles Finet, par exemple, explique qu'il a étudié beaucoup de réveils, il a vécu beaucoup de réveils aussi, qu'à partir du moment où les gens qui étaient utilisés dans le réveil, à critiquer les autres ministères, à critiquer les autres chrétiens ou les autres églises, l'Esprit de Dieu partait instantanément et c'était, le réveil s'arrêtait. Il faut qu'on garde notre cœur, il faut qu'on fasse vraiment attention à nos cœurs et personne sur la terre, aucun chrétien, aucun homme ou femme de Dieu ne peut ne pas faire attention. On est tous appelés à faire attention.
Même pas les anges.
Même pas les anges, puisque Lucifer lui-même est tombé à cause de l'orgueil.
Exactement, c'est vrai.
C'est la femme Catherine Coleman, après ses réunions, parce qu'elle, jusqu'à la toute fin quasiment, elle a vraiment... Elle n'a pas été un objet de scandale en termes de son ministère et tout ça. Puis, quand tu regardes, et il y en a quelques-uns qui l'ont vu, après les réunions de puissance, il y avait des milliers de personnes et c'était glorieux. J'ai entendu une histoire récemment d'un papa qui avait sa petite fille dans les mains. Elle était pleine de bosses. C'était des tumeurs partout sur son corps. Puis, quelqu'un avait vu le papa rentrer. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a revu le papa sortir. La petite fille, elle avait été complètement guérie. Wow. Mais tu vois, c'est des trucs. C'était tellement fort, il y aurait toutes les raisons de s'enorgueillir dire « Ah, c'est moi la femme de Dieu ». Et puis les gens, il y en a qui l'ont vu quelquefois, après les réunions, elle quittait tout de suite, elle ne restait pas parler avec tout le monde, elle quittait et elle allait s'enfermer. dans un bureau, dans une place, toute seule, et elle pouvait pleurer devant le Seigneur tellement qu'elle était reconnaissante. Elle donnait toute la gloire à Dieu en privé, tu vois, et elle faisait pas devant les hommes pour... C'était un truc qui était sincère de son cœur, et on le sait aujourd'hui parce qu'il y en a qui l'ont vu, mais quand tu regardes comment elle agissait par rapport, elle vivait des choses extraordinaires, mais après ça, elle allait elle-même donner la gloire à Dieu, c'est et ça. Puis Dieu, ben, il connaît nos cœurs, hein, il sait vraiment c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, c'est tellement
puissant. La reconnaissance est très importante pour se garder dans l'humilité, j'y pensais pendant ta pensée du jour, je me disais que vraiment, quand on est humble, on est reconnaissant à Dieu, parce qu'on sait que c'est lui qui accomplit ces choses-là.
Ça.
Et ça, ça nous garde beaucoup, de rester dans une attitude de reconnaissance tout le temps, de jamais s'habituer à vivre des grandes choses, jamais s'habituer à la gloire de Dieu dans nos vies, à avoir des miracles, des prodiges, à voir Dieu se servir de nous, en fait. Toujours rester dans la reconnaissance.
Ouais. Quels que soient les talents qu'on a reçus, quelles que soient les habiletés qu'on a, les fruits qu'on porte, il faut toujours, comme Frank l'exprimait, comme tu l'as exprimé, se souvenir la source. Ouais. La source, c'est Dieu. Même celui qui est né avec des talents incroyables, c'est Dieu qui l'a créé. Et ça, c'est essentiel. Et ceux qui sont dans le ministère, moi, je me souviendrai toujours, dans mes débuts de ministère, il y a un moment donné, j'étais dans ma salle de bain et je suppliais le Seigneur de me donner plus d'onction, en fait. Et pendant une semaine, ça a commencé par une réunion, et pendant une semaine, tous les gens, tous ceux que je touchais étaient visités, même les proches, tous ceux qui rentraient dans ma chambre d'étudiant étaient touchés. Et c'est resté là, et j'avais pris pour acquis ça, j'étais jeune converti, je me suis dit « Wow, ça y est, ça j'ai l'onction !» Et puis il y a eu une fameuse réunion, et puis là j'arrive, il y avait une fille qui avait un problème. Je me suis dit en moi-même « Aucun problème, je vais juste la toucher. » Il se passait absolument rien, et j'étais tellement mal, j'avais envie de me cacher dans un trou de souris.
Ah, c'est clair.
Et là j'ai réalisé que c'était pas un acquis, mais c'était le Saint-Esprit. Et on doit toujours se souvenir... Et là, après, le Seigneur m'a parlé à mon cœur et ça pourrait être formulé ainsi, c'est qu'il déversera une onction plus forte sur notre vie, sur la vie des ministères, dès l'instant où on sera capable de gérer et de supporter ça sans s'enorgueillir.
Exactement.
Dans Jean 15, il y a Jésus qui dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça, c'est un verset que j'ai gravé dans ma tête. Car sans lui, tu ne peux rien faire.
Oui,
c'est ça. C'est tellement vrai.
Vraiment. On va regarder notre verset du jour avant de passer à la rubrique Actu. Aujourd'hui, dans Proverbes 18-12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et je prie vraiment qu'aucun de vous qui nous écoutez ne puissiez arriver au moment de la ruine, mais restez vraiment dans cette position d'humilité, reconnaissant que c'est Dieu qui accomplit toutes choses au travers de vos vies. Et nous allons continuer à voir comment Dieu s'est servi d'hommes et de femmes pour amener des réveils et comment ces réveils se sont malheureusement certaines fois terminés dans la rubrique Actu. Anne, tu nous parles aujourd'hui des racines du pentecôtisme moderne, donc de nos racines en fin de compte, de tout ce qui s'est produit pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui.
Bah oui, ce qui m'a donné l'idée de faire cette rubrique aujourd'hui, c'était que cette semaine, on fête les 117 ans, exactement cette semaine, d'un puissant réveil qui a été l'événement fondateur du mouvement de Pentecôte. Et on parlait d'humilité, d'homme, de Dieu humble, et je vais tout de suite vous montrer un visuel, c'est le pasteur Seymour. Lui aussi, mais celui d'après. Voilà, William J. Seymour. William J. Seymour, c'est cet homme qui était enfant d'esclave et qui a appris que à Topeka, au Kansas, il y avait des enseignements sur le Saint-Esprit, sur les guérisons, sur tout ce qui concernait la Pentecôte. Et il est allé écouter et il était assis. Il n'avait pas le droit, comme il était noir, de rentrer dans la salle. Donc, il s'asseyait à l'extérieur sur les marches et il écoutait les cours. Et il écoutait les cours. Et même pendant les réunions, les cultes, il n'avait pas le droit de rentrer parce qu'il était noir. Mais il restait devant la porte. Et cet homme était un modèle d'humilité. Et c'est lui qui a amené le puissant réveil dont je vais vous parler.
Wow.
Alors oui, l'humilité est l'ingrédient essentiel pour que Dieu puisse se servir de nous. Et... la définition du pentecôtisme, d'abord, parce que bon, il y en a peut-être qui nous écoutent qui sont pas familiers avec la notion, donc je pensais que c'était une bonne chose de, déjà de définir ce que c'était que le pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est un courant évangélique, c'est-à-dire qui met l'accent sur la piété personnelle, la lecture de la parole de Dieu et la sanctification. et qui donne une place centrale au récit de la Pentecôte. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, au moment de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on voit que les gens étaient réunis pour prier, les croyants étaient là pour prier, et le Saint-Esprit s'est déversé. C'est pour ça qu'on appelle ça le pentecôtisme, parce que ça se réfère à cet épisode d'Actes 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Et aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Donc c'est ça, l'événement de Pentecôte auquel se réfère le pentecôtisme. Et c'est un mouvement qui a une caractéristique assez particulière, c'est qu'elle n'a pas de fondateur. Hein, on connaît la Réforme, c'est Luther, Calvin, Wesley, c'est le méthodisme, on a l'Armée du Salut fondée par William et Catherine Booth, mais pour le mouvement de Pentecôte, il n'y en a pas. Pour la bonne et simple raison que les premiers pentecôtistes, d'abord, les réveils se sont produits simultanément, quasiment, à plusieurs endroits de la Terre, sans lien les uns avec les autres. Ouais. Donc Dieu s'est servi des hommes, comme celui que je viens vous de montrer, le pasteur Seymour, qui était vraiment quelqu'un de humble. Il s'est servi de gens humbles pour envoyer son feu. Et donc il n'y a pas de fondateur. Et par contre, dans le dernier quart du 19e siècle, il y a eu déjà l'émergence de mouvements de sanctification, on les appelait les Holiness Movement, les mouvements de sanctification. Et il y avait déjà une soif de vivre vraiment ce que la parole de Dieu dit, une soif vraiment de se sanctifier, de se mettre à part pour Dieu, avant même que l'Esprit puisse se déverser. Dans les décennies qui ont précédé, il y avait ce désir ardent de la part de plusieurs groupes de chercher la face de Dieu et de se sanctifier, de se purifier devant Dieu, d'avoir un comportement vraiment conforme à ce que Dieu enseigne.
Ce qui est un bon ingrédient pour produire le réveil.
C'est ça. Donc les ingrédients commençaient à se mettre en place et on avait déjà la solution... J'allais dire la combinaison gagnante. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler, sans l'avoir déjà, de baptême dans l'Esprit Saint et de guérison divine. Il y a des gens comme Thoré qui ont commencé à répandre ces enseignements-là. Il y en a d'autres aussi. Mais on commençait à vraiment dire, bon, on ne l'a pas encore, mais on sait, c'est écrit, on va l'avoir.
Ah oui.
Donc il y avait une soif, il y avait un désir et l'enseignement déjà commençait à prendre place et une aspiration profonde qui commençait à monter. Ce qui fait que quand il y a eu l'événement dont je vous ai parlé à Topeka le 1er janvier 1901, eh bien, les cœurs étaient préparés. Et cet événement, donc, de Topeka, le 1er janvier 1901, ça s'est produit justement dans un groupe de sanctification à l'école biblique Bethel, le collège biblique de Bethel, à Topeka, où enseignait Charles Parham. Donc, on va voir la photo de Charles Parham. Voilà, Charles Parham, c'est lui qui enseignait, qui ne l'avait pas encore reçu, il l'a reçu plus tard, mais il dit « c'est écrit et je le crois et c'est pour nous aujourd'hui ». Donc il enseignait ses étudiants à vraiment aspirer aux choses que présentait la Bible, comme ce réveil pentecôtiste qu'on voit au fil des actes. On ne voit pas seulement ça dans Actes 2, mais en plusieurs endroits aussi dans les actes. Et dans l'histoire de l'Église, depuis les Actes des Apôtres jusqu'au 1er janvier 1901, il s'était quand même passé des choses. Des toutes petites manifestations, enfin toutes petites, elles sont jamais petites, mais c'était sporadique, on va dire, c'était pas organisé en mouvement, ça a pas déclenché des gros réveils, mais il y a quand même eu des choses. Et on a parlé de la réforme protestante, je vous ai parlé des petits prophètes des Cévennes déjà à plusieurs occasions. C'en était un exemple, des enfants qui prophétisaient, des gens qui parlent d'autres langues. Les premiers Quakers aussi ont vécu quelques épisodes de visitation de l'Esprit Saint avec des parlers en langue. Aussi, les jansénistes, vous savez peut-être pas, mais le grand savant Blaise Pascal, qui était janséniste, était un homme qui... C'était l'Einstein de l'époque, et c'était un homme, un cerveau à 6 étages. Et cet homme cherchait Dieu, était conscient de la grandeur de Dieu. Et à un moment donné, dans son journal, il raconte quelque chose. Il sait pas ce qui se passe, mais nous, on sait ce qui se passe. Voyant les détails, il est visité par le Saint-Esprit. Ah, il a vraiment une visitation puissante du Saint-Esprit. Wow. Et il y a aussi des gens qui s'étaient convertis avec les ministères de Wesley et Whitfield qui se sont aussi, qui ont vécu des temps comme ça de visitation de l'Esprit. Mais c'était sporadique. Mais vraiment, la première effusion qu'on pourrait citer, c'était en Russie dans les années 1850. Ça va peut-être vous surprendre, mais les Russes orthodoxes, il y a eu un groupe de Russes orthodoxes qui ont eu une visitation de l'Esprit Saint. Wow. Et là, ils ont commencé à envoyer des gens pour parler de ce qu'ils avaient vécu. Et il y en a entre autres qui sont allés, plusieurs familles, qui sont allées en Arménie. L'Arménie, c'était d'ailleurs à l'Antiquité, c'était le premier pays qui s'est vraiment donné, qui s'est converti, le premier pays chrétien officiellement.
D'accord.
Et comme par hasard, c'est là que vraiment a commencé à prendre le feu de l'esprit. Mmh. Et dans la ville de Caracalla, puis ceux qui sont un peu familiers de l'histoire de la famille Chakarian, Demos Chakarian, avec les hommes d'affaires du plein évangile, ils racontent ça. En fait, c'est des gens qui descendent de familles arméniennes, chrétiennes, qui ont été visités à cette époque-là, dans les années 1850. Et il y a eu plusieurs foyers comme ça de Pentecôte sporadiques, mais vraiment c'est en 1901 à Topeka que ça a commencé. Ça a commencé la petite étincelle, et je vous ai raconté ce monsieur William Seymour qui allait écouter, qui avait soif, et quand il a été vraiment imprégné des enseignements de Charles Parham, il est allé à Los Angeles. Et là a commencé le réveil que vous connaissez certainement, le réveil d'Azusa Street.
Oui.
Et on considère que c'est l'événement fondateur du pentecôtisme moderne. Mmh. Mais quand même... C'est vraiment significatif parce que j'ai lu, voilà, c'est Azusa Street, la salle où ils ont vécu ce réveil. On estime que en 2018, maintenant en 2018, on estime à 800 millions de personnes les gens qui ont été impactés à la suite de ce réveil d'Azusa Street. C'est vraiment énorme. Donc en 118 ans, 117 ans. On estime à 800 millions de gens qui ont été impactés par ce qui s'est passé à Azusa Street.
Mmh. Wow.
Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé tout de suite à Azusa, c'était à Bonnie Bray Street, chez une petite dame, parce qu'en fait, ils avaient été mis à la porte. William J. Seymour avait commencé à prêcher. Eux, leur but, c'était pas de fonder un nouveau mouvement, c'était juste d'amener comme des ferments de réveil et une soif. Donc, il avait prêché dans une église la veille, et le lendemain, quand il est revenu, il y avait un écriteau sur la porte, la réunion était annulée, le pasteur de l'église ne voulait plus qu'on parle de l'Esprit-Saint.
Oh, wow.
Donc, il allait se réfugier avec les gens intéressés chez une petite mamie noire, qui s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, celle-là. Mais en tout cas, elle s'était sur la rue Bonnie Bray. Okay. Et sur Bonnie Bray Street, il y a eu vraiment les premières effusions de l'esprit. Puis c'était tout de suite trop petit. Ils prêchaient sur le perron, les gens étaient dans la rue, la foule s'amassait. Donc ils ont loué à l'église méthodiste ce local.
Okay.
Qui était un vieux truc dont personne voulait, des vieux entrepôts. Et là, vraiment, le feu de Dieu est tombé, à tel point même... Dans les Actes des Apôtres, on parle de flammèche, hein, de langue de feu. Hein, et ben justement, pendant le réveil d'Azusa, les pompiers ont été appelés plusieurs fois parce qu'il y a des gens qui passaient dans la rue qui voyaient des flammèches tourbillonner autour de la maison. Et ils ont été appelés, puis ils arrivaient, il n'y avait pas de feu. Quelques jours plus tard, on les appelait, ils venaient, il n'y avait pas de feu.
C'est dingue.
Parce qu'il y a des témoins oculaires non chrétiens qui passaient dans la rue qui voyaient des flammèches. Donc, ce n'est pas juste une image métaphorique. Mm-hmm. Là. C'est vraiment passé. Il y avait vraiment des langues de feu qui tombaient sur le bâtiment.
Et comment ça a pu impacter autant de personnes? Quand on voit la taille du bâtiment qui est tout
petit. Et ben quand on voit la taille du bâtiment, mais en fait c'était tellement puissant, il y avait des miracles, il y avait vraiment des guérisons spectaculaires, il y avait ces gens qui parlaient en d'autres langues et des langues intelligibles, pas du charabia biabia là. C'était vraiment des vraies langues que d'autres gens comprenaient, et c'était tellement miraculeux que ça a attiré des gens de la terre entière. Il y a des gens d'Europe qui sont venus écouter, des gens d'Asie qui sont venus écouter et qui ensuite sont repartis avec le feu, et ont répandu ce feu partout dans le monde. Et
est-ce que c'est là où, à cet endroit où il y a eu des membres qui repoussaient là?
J'ai pas entendu parler de ça. En tout cas,
Susan, non plus, j'ai pas entendu des.
J'avais vu une vidéo, un bras qui repoussait.
J'ai pas entendu parler de ça, mais peut-être. Il y a eu tellement de miracles à Azusa Street. Et justement, j'ai retrouvé sur YouTube, c'est super. Peut-être aller le chercher, c'est tellement édifiant. C'est un reportage de 1978 où deux personnes, une petite mamie et un petit papy noir américain, qui étaient enfants. La fille avait 7 ans à l'époque et le garçon 11 ans à l'époque du réveil d'Azusa. Ils ont vécu ça et ils racontent ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment merveilleux. Et quand on écoute ça, on a envie que ça nous arrive.
C'est ça.
Et justement, je me suis dit, Seigneur, on prie tellement pour le réveil depuis des années. Alors, mais c'est quoi leur recette? Parce qu'on le veut. Et je me suis dit que ces choses-là ne sont pas arrivées par hasard. Et comme tu l'as dit dans la pensée du jour tout à l'heure, ça a pris des hommes humbles, des gens qui cherchent, qui ont la soif de Dieu, qui se mettent en règle, qui s'alignent avec les principes divins dans la sanctification, qui ont soif et qui sont humbles. Les réveils sont toujours arrivés par des gens humbles. Il n'y avait pas de prétentieux à l'origine des réveils. Quand l'esprit s'est répandu, c'était parce qu'il y avait des gens humbles. D'ailleurs, on va voir une photo des leaders d'Azusa Street, je pense qu'on l'a. C'était des gens humbles. C'était des gens qui se vouaient complètement à Dieu, qui étaient consacrés et qui étaient humbles. Et c'est ça, des gens qui avaient une soif passionnée de Dieu. Beaucoup de temps dans la prière. Hein. Avant chaque réveil, on voit des gens consacrés dans la prière qui passent des heures à chercher la face de Dieu. Mmh. Une sanctification, une remise en conformité aux principes bibliques et l'humilité. Je vais vous lire 2 Chroniques 7:14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est ce qui est arrivé à Azusa. Et je vais vous citer justement une phrase de cette personne qui était dans le reportage de 1978. Elle s'appelait Madi, la petite mamie, puis une petite mamie vraiment pleine du feu de Dieu. Et elle disait « Quand les gens commencent à s'enorgueillir, parce qu'ils voient les résultats spectaculaires de l'action du Saint-Esprit, l'amour de Dieu subsiste, mais l'Esprit se retire et le réveil s'éteint. Mmh. » Et ce qui a conditionné l'extinction des différents réveils puissants qu'on a connus au début du XXe siècle et aussi au milieu du XXe siècle, je pense au réveil des nouvelles hébrides, c'est qu'à un moment donné, les gens se sont pétés les bretelles parce qu'il y avait des guérisons, des miracles, des choses spectaculaires, et ils ont pris la gloire pour eux, et Dieu ne partage pas sa gloire.
C'est ça.
Et l'amour de Dieu a subsisté. Mais l'esprit s'est retiré. Mmh. Donc si on veut, et moi je le veux, vous le voulez, on veut des réveils, on veut que l'esprit se déverse sur nous, mais il faut commencer déjà par s'aligner avec les principes, faire de Jésus notre modèle absolu, et puis aspirer, vraiment aspirer, à se mettre en conformité avec les attentes de Dieu.
Amen.
Amen.
Oh, j'en ai des frissons.
Frissonne. C'est des bons frissons.
Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Frank, tu connais bien, toi, toutes ces histoires de réveil. Tu aimes ça.
Lui, William J. Seymour, oui. Il était dans la petite maison, comme tu disais au tout début. En fait, quand il priait, c'est, en tout cas, il n'y a personne qui connaît les cœurs de l'homme. Hein, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Puis lui, en fait, qu'est-ce qu'il... Parce que je dis ça parce qu'il y en a qui pourraient dire ben, c'est de la fausse humilité aussi ou ça. Mais lorsqu'il priait dans la petite maison de tout son cœur, en fait, ce qui est dit de lui, c'est ça, c'est que il y avait un pupitre qui s'était fait avec des espèces de petites boîtes de pommes, mettons, oui. des petites boîtes. Puis il cachait un peu son visage, il se retirait, puis il voulait, tu sais, c'est pas moi, Dieu, c'est toi qui vas agir. Tu vois, il voulait pas prendre la gloire pour lui. Mm-hmm. Puis ben c'est ça, on a vu Dieu, ben Dieu l'a utilisé, ça l'a fait le tour du monde, comme elle a dit. Il y a des gens de partout qui venaient, des gens qui venaient critiquer le réveil. Il y en a une personne en particulier qui était venue pour vraiment écraser ce qui se passait dans les journaux de Los Angeles, LA Times, puis tout ça. Puis la personne qui était là, en fait, quelqu'un qui s'est tourné vers elle, une parole de connaissance sur tous les péchés dans sa vie, si on veut, mais la personne est tombée sur le dos. Hein. Elle a dit, mais c'est comment tu sais tout ça? Il y avait l'esprit qui se manifestait, c'était tellement fort. Puis, mais lorsque on parle de l'orgueil aujourd'hui, lorsque tu regardes, comme j'ai dit, c'est progressif, hein? On grandit tout, c'est comme la sanctification, c'est progressif. De plus en plus qu'on avance dans le Seigneur, de plus en plus des choses nous sont révélées. Quand tu regardes Jack Coe, qui avait un chapiteau dans les années 1950, lui, durant le réveil de guérison.
Aux
États-Unis d'Amérique, ouais, c'est ça. C'est là où c'était l'époque des chapiteaux. Vraiment, c'était les plus gros chapiteaux du monde. Puis eux, les prédicateurs de chapiteaux, ils aimaient ça de dire qu'il y avait le plus gros chapiteau du monde. Puis tu vois, tu te dis, mais pourquoi mettre l'emphase là-dessus? Ben, ils voulaient dire, moi, j'ai le plus gros chapiteau du monde. Puis il y en a un qui est allé mesurer la tente de l'autre pour être sûr d'avoir plus grand que lui. Mais il est allé lui-même sur place, il n'a pas envoyé quelqu'un.
Mais
tu vois, c'est... Dieu, pareil, les utilisait. Mais c'est comme je dis, c'est progressif. Puis il y a des choses, ben c'est ça, on grandit là-dedans. On regarde ça, nous, en riant aujourd'hui. Mais je veux dire, on n'est pas mieux. Hein, quand qui qu'on est à juger, nous, pour...
Ah, c'est sûr.
Il y a des choses, c'est ça. Puis ben c'est ça, c'est vraiment une question d'humilité dans tout ça.
Aujourd'hui, c'est le pasteur qui va aller voir s'il a plus de likes Facebook sur sa page.
Oui, c'est ça, exactement. C'est tout le temps une chose qui est différente.
Ouais. C'est ça, mais il faut rester vigilant, vraiment.
Mais dans les années 30, le mouvement de Pentecôte en France... a commencé avec Douglas Scott. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent qui ont déjà entendu parler de Douglas et Clarice Scott. Et ce monsieur-là, en fait, voulait partir comme missionnaire au Congo et il devait apprendre le français. Donc, il a débarqué en Normandie et puis il a commencé à prêcher. Et là, le réveil a pris. Ouais. Et il y a eu des choses vraiment similaires à Azusa, mais à l'échelle française. Il est allé en Suisse romande. Il est allé en Algérie aussi prêcher. Et à chaque fois, moi, j'ai connu des pasteurs qui ont connu le réveil en Algérie. Avant la guerre d'Algérie, il y a eu un temps de réveil. Les gens faisaient la file dans la rue. Hein. Il y avait plus de place. Les pièces étaient, les salles de réunion étaient pleines. Ils appelaient ça les salles viens et vois. Et c'était plein à craquer. Les gens faisaisaient la file et attendaient. Et on veut voir ça dans nos églises.
Ah, amen.
Ouais.
Ouais. Et puis quand on voit tous ces hommes, on se dit, bon, bah, ces hommes, ils ont forcément payé un prix dans la prière, ouais. mais c'est vrai, mais souvent, c'est d'autres qui ont payé le prix pour eux. Il y a, dans des réveils, il y en a d'autres vraiment qui ont prié, mais Dieu les a choisis. Et pendant que j'écoute un peu tout ce qui est dit, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai que ton regard parcourt la terre.
Ouais.
Et tu cherches un homme, une femme, qui sera capable justement de contenir cette gloire, d'être humble et de ne pas s'enorgueillir, de rester fidèle, de faire toujours ce que Dieu dit.
Et même des ados. Au réveil des Nouvelles Hébrides, c'est un adolescent que Dieu a saisi pour amener.
Donc Dieu choisit des hommes selon son cœur. Et c'est tellement important, hein, de l'humilité. Je me souviens, à l'île de la Réunion, d'où je suis originaire, c'était le pasteur Cizeron,
des Assemblées de Dieu. 1966.
C'est incroyable. Cet homme était pasteur en France, il priait pour des gens, il n'y avait pas de fruits. Ouais. Il n'a rien fait de plus ni de moins entre deux, mais il s'est retrouvé à aller à l'île de la Réunion. Et là, Dieu l'a revêtu. Et il y a eu un puissant réveil. Au point que les gens touchaient ses cheveux pour être guéris, les morts ressuscités, les paralytiques marchaient. Mais le même homme mais c'est ce que j'allais dire, c'est que c'était vraiment un homme humble. Mmh. Humble qui cherchait à faire ce que Dieu voulait, et non pas son propre empire, son ministère, etc.
Il avait dû beaucoup prier à l'île de la Réunion pour que...
D'ailleurs, si je me souviens bien, ses collègues pasteurs n'étaient pas d'accord qu'il parte à l'île de la Réunion, et il est parti... C'est vraiment un homme qui a obéi à la voix de Dieu.
Ouais. Il avait eu un... Il dit même pas que Dieu lui a parlé, il dit qu'il a... Quand j'ai lu son livre, il dit que j'avais un fort désir d'aller dans un endroit où l'évangile n'avait jamais été prêché. Et c'est là qu'une famille de l'île de la Réunion lui a parlé, bah, viens prêcher l'évangile. Et là, bon, il a eu le feu vert de Dieu, effectivement. Ouais. Mais c'est parti d'un élan de cœur.
C'est extraordinaire. Ouais. C'est
puis il y a eu en 3 semaines, 5000 baptêmes d'eau.
Ouf.
3 semaines.
C'est hallucinant.
C'est extraordinaire.
C'est vraiment l'action du Saint-Esprit.
Il n'y avait qu'un couple évangélique à l'île de la Réunion.
Et après, il y en avait 5000.
Ça a été puissant.
Mais là, l'île de la Réunion, c'est vraiment une terre bénie. Hein. On voit tous les bons fruits de ce réveil qu'il y a eu. Mais maintenant, en ce moment même, Dieu se glorifie dans les choses humbles.
Amen. Amen. Vraiment, vraiment. C'est tellement important. Que nous ne soyons pas disqualifiés. Je dis nous chrétiens en général, mais je nous inclus aussi dedans parce que vraiment, le manque d'humilité, c'est vraiment une cause de disqualification. C'est difficile à dire. Et c'est vraiment important. Il faut toujours qu'on garde notre cœur dans toutes ces choses. Et vous nous écoutez. Et certainement, le Seigneur s'est déjà servi de vous. Il se sert peut-être même de vous en ce moment. Et on veut vraiment vous encourager à la fin de cette émission à garder vraiment votre cœur humble en toute chose. C'est le Seigneur qui accomplit tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut. On a parlé de dons, on a parlé de talents, on a parlé d'onction. Toutes ces choses sont des cadeaux gratuits de Dieu et c'est une faveur imméritée. Et c'est important qu'on s'en souvienne toujours. Et nous-mêmes, en ce moment, sur ce plateau, je suis sûre, je n'ai pas de don de lire dans vos pensées, mais je suis sûre que chacun d'entre nous, on veut vraiment marcher dans l'humilité et on se dit, Seigneur, garde-moi toujours humble, garde-moi toujours attaché à toi. Permets-moi de toujours me souvenir que c'est toi qui accomplis toutes ces choses, parce qu'on ne veut pas être disqualifié, on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Et je vous encourage vraiment, s'il y a des pasteurs qui nous écoutent, des hommes, des femmes de Dieu, Dieu se sert de vous, gardez votre cœur vraiment humble, soyez vraiment sages en toutes choses et souvenez-vous toujours que c'est Dieu qui accomplit ces choses. Soyons toujours reconnaissants que c'est Dieu qui l'accomplit, c'est une grâce que Dieu nous fait. N'oublions jamais quelle est la source de tous ces miracles, ces prodiges que nous pouvons voir, de toute cette connaissance de la parole de Dieu que nous pouvons avoir. La source, c'est toujours notre Seigneur, le Saint-Esprit en nous qui agit. Merci à vous tous pour cette super émission. Je sens comme... Tout est calme, en fait. Il y a une humilité qui s'est installée. C'est un thème important. Ouais. Ça amène beaucoup de calme. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Être chrétien dans une famille incroyante ». Et oui, c'est pas forcément facile. Et peut-être c'est votre cas. Vous nous écoutez. Vous êtes le seul chrétien dans votre famille. Cette émission sera pour vous. Et nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Je vous dis à demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.